Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Acclamons la parole de Dieu.
Dimanche dernier, l'évangile de la parabole de la semence qu'on jette en terre et qui pousse toute seule nous invitait à la confiance, nous invitait à la patience. Le royaume de Dieu advient par des chemins inattendus. Le Seigneur travaille dans les cœurs, le Seigneur travaille dans le monde. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas exactement pourquoi il le fait comme ça, mais nous croyons que quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu grandit et parviendra à son terme. Un jour, comme dit saint Paul, tout sera récapitulé dans le Christ et tout sera introduit dans le cœur même de Dieu. Tout sera rendu au Père, de qui vient tout don parfait. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à la foi, nous invite à passer dans un monde nouveau, un nouveau regard sur Jésus, un nouveau regard sur le monde, et même sur la mort et sur la vie. Jésus enseignait dans la barque. Les paraboles que nous avons lues et qui sont avant ce passage dans l'évangile de saint Marc, les paraboles, Jésus les enseigne, il est dans la barque parce qu'il s'est éloigné un peu du rivage pour pouvoir se faire entendre. La foule se presse sur le rivage qui forme comme une espèce de cirque, de crique au bord du lac de Génézareth, le lac de Tibériade. Jésus enseigne, et puis Jésus leur dit, ayant fini les paraboles, Jésus leur dit : Passons maintenant sur l'autre rive. Et il l'emmène tel qu'il était, comme ça, dans la barque. Il y avait d'autres barques autour de lui. Jésus sait ce qui va se passer. Jésus veut les préparer aux grands événements qui l'attendent un peu plus tard, dans la passion et dans la mort. La tempête de fait se lève et Jésus dort. C'est impressionnant de voir Jésus dormir dans la tempête. S'il dort, c'est parce qu'il a confiance. Et d'abord et avant tout, il a confiance dans les hommes qui conduisent la barque. Il a confiance en Pierre, il a confiance en André, les pêcheurs qui sont des pêcheurs de métier, qui sont des marins de métier. Jésus a confiance, il se livre à eux et de fait, il dort dans la barque. Mais la tempête est si forte que les hommes paniquent. Pour que Pierre et les autres marins paniquent, c'est que le danger est réel, le danger est grave. Et alors ils appellent Jésus, et ce qui est significatif, c'est qu'ils appellent Jésus pas tellement pour les sauver que pour l'engueuler. Tu dors ? Enfin, qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi est-ce que tu dors ? Tu ne vois pas qu'on est en train de couler, tu ne vois pas qu'on est en train de... On est confronté à des dangers terribles. Dans les tempêtes que nous rencontrons dans la vie, il arrive assez fréquemment que soyons tentés de crier vers le Seigneur, non pas tellement pour l'appeler au secours que pour l'engueuler, pour dire notre colère. On trouve des gens qui disent, mais c'est bien, il faut engueuler le bon Dieu. Mais non, qui sommes-nous pour engueuler le bon Dieu? Qui sommes-nous pour lui faire des reproches? Qui sommes-nous pour lui dire ce qu'il a à faire? Que nous appelions, oui, sûrement, que nous appelions avec un cri d'angoisse, oui, bien sûr, que nous appelions à l'aide, c'est normal, mais que nous fassions un reproche à Jésus parce qu'il nous fait confiance, ça non. Jésus calme la tempête et leur pose la question après l'avoir calmée. N'avez-vous pas la foi? Comment se fait-il que vous ayez peur? N'avez-vous pas la foi? Dieu peut tout. Et le passage du livre de Job que nous lisions nous montre la puissance de Dieu sur les éléments, la puissance de Dieu qui fixe une limite à la mer, la puissance de Dieu qui commande à la mer. Question du mal et de la souffrance. Job, de fait, engueulait le bon Dieu et se justifiait devant lui. Pourquoi m'arrive-t-il ce qu'il m'arrive? Pourquoi m'arrive-t-il tous ces malheurs alors que je suis juste et que je n'ai pas péché? Je suis irréprochable et pourtant je suis dans le malheur. Dieu écoute Job longuement. Et puis, en prenant la parole, Dieu lui demande, Job, où étais-tu quand je fixais des limites à la mer? Où étais-tu quand je créais le ciel et la terre? Où étais-tu quand je commandais aux nuages d'apporter la pluie sur la terre? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as commandé avec moi? Job se rend compte qu'il y a des choses qui lui échappent, qu'il y a des secrets, des mystères de la puissance de Dieu qui sont trop grands pour lui, qui lui échappent. Mais Job reconnaît que Dieu est Dieu, que Dieu commande en toutes choses et que Dieu commande avec sagesse. Dans la barque des pêcheurs, Pierre et les autres se prosternent, saisis de crainte. Qui est-il donc, cet homme-là, pour qu'il commande même au vent et à la mer? Qui est-il donc, cet homme-là? Au fond, ce passage est plus profond encore, plus profondément, le passage de la mort à la vie. Passons sur l'autre rive, Jésus nous invite à entrer dans une nouvelle vision de la vie de ce monde à la vie dans l'autre monde, à travers la mort, du faux moi centré sur lui-même, du faux moi prétentieux au vrai moi libre et vivant, vivant en Dieu, vivant pour Dieu. Jésus va accomplir lui-même ce passage. Jésus lui-même va passer de cette vie à l'autre à travers la mort. Jésus va connaître la mort pour ouvrir un passage dans la mort, comme il ouvre un passage dans la tempête. Il rejoint les grandes angoisses de l'homme pécheur. Jésus, à travers la tempête qu'il va traverser dans la Passion, rejoint l'immense cri des hommes dans son agonie. « Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et puis ce grand cri déchirant le ciel au moment de mourir sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri vers Dieu, un cri d'appel. C'est le cri de l'humanité vers Dieu, qui se tourne vers Dieu enfin, non pas pour lui faire des reproches, mais pour appeler au secours. C'est vrai, Dieu seul peut tout. Comme Jésus dormait à fond de cale dans la tempête, se jettera comme Jonas, vous rappelez l'histoire de Jonas, il dormait dans la cale au fond du bateau pendant la tempête. Et puis finalement, Jonas se jettera à l'eau pour sauver les autres. Il se sacrifie lui-même pour sauver l'équipage. De la même manière, Jésus dort de ce sommeil mystérieux sur la croix. Il est plongé dans ce sommeil mystérieux. Comment se fait-il que Dieu puisse mourir? Mais il est en train de se sacrifier lui-même, d'offrir sa vie en sacrifice pour que nous ayons la vie. Il se jette dans la tempête, volontairement, délibérément, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, dit la prière eucharistique. Moi aussi, dans le fond, je dois apprendre à dormir de ce sommeil de la mort, c'est-à-dire je dois apprendre moi aussi à mourir à moi-même. Je dois apprendre à mourir pour passer la mort pendant que Jésus se débrouillera avec la tempête pendant que Jésus me sauvera. Mais ça suppose de connaître Dieu, de connaître Jésus, non plus selon la chair, comme disait saint Paul tout de suite dans l'épître que nous avons lu, non plus connaître Jésus selon la chair, comme quelqu'un qui n'étant qu'homme se ferait Dieu, qui blasphème, mais connaître Jésus selon l'esprit de sainteté. Qui est-il, celui qui commande au vent et à la mer? Voir en lui, voir en Jésus le Fils unique, don du Père pour nous. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, c'est la grande question. Qui est donc cet homme? C'est la question qui traversera tout l'évangile de saint Marc. La première phrase de l'évangile de saint Marc, Jésus, Christ, Fils de Dieu. Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Marc présente son évangile. Exactement au milieu de l'évangile, au cœur de l'évangile, la réponse de Pierre à la question de Jésus, qui êtes-vous? Qui suis-je pour vous? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Profession de foi de Pierre. Et puis, à la fin de l'évangile, une fois Jésus mort, le cri du centurion qui le constate et qui fait cet acte de foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus sait les tempêtes que nous traversons. Jésus sait et connaît les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et d'une certaine manière, Jésus ne veut pas que nous les évitions pour que nous puissions apprendre la foi, pour qu'à travers ces épreuves, qu'à travers ces souffrances, nous connaissions la foi. Nous connaissions Jésus de cette connaissance nouvelle. Que nous passions de la peur à la crainte. De fait, les apôtres ont peur dans la tempête. Ils ont peur de cette peur qui tenaille, qui sont la trouille. Et après avoir vu Jésus calmer la tempête, ils sont saisis de crainte, qui n'a plus rien à voir avec la peur. C'est le don de crainte qui fait que nous nous prosternons devant Dieu en reconnaissant sa majesté, en reconnaissant sa puissance. Et sa puissance, c'est une puissance d'amour, c'est une puissance de miséricorde, c'est une puissance infiniment vulnérable. Regardons Marie, qui se livre avec une confiance totale. Elle connaît, vous connaissez par cœur ce passage que je cite souvent, passage de l'encyclique de saint Jean-Paul II, à propos de Marie, mère du Rédempteur. Marie connaît au pied de la croix, dans son cœur humain, un total démenti des promesses de l'Annonciation. On lui avait annoncé que Jésus serait grand, qu'il serait appelé Fils de Dieu, qu'on lui donnerait le trône de David, son père. Et Marie, au lieu de ça, voit Jésus crucifié. Son trône, c'est la croix à laquelle il est cloué, nu. Échec total. Elle voit de ses yeux l'échec total. Elle croit dans sa foi la victoire totale. Elle est dans une foi absolument pure, la foi de Marie qui nous conduit à la grande espérance. Aujourd'hui, notre monde connaît de grandes tempêtes. Nous connaissons nos tempêtes personnelles dans nos familles, dans nos vies à nous, tempêtes de la maladie, tempêtes des accidents, tempêtes des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais les grandes tempêtes aussi pour notre Église, les grandes tempêtes pour notre pays, pas la peine de commenter très longtemps. Les grandes tempêtes auxquelles est affronté le monde. Quel exemple donnerons-nous à ce monde, nous les chrétiens? Est-ce que nous enseignerons le monde par notre confiance? Est-ce que nous serons pour nos contemporains? Est-ce que nous serons pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour nos familles, un modèle de confiance? Je voudrais souligner en terminant cette urgence du témoignage de la foi, l'urgence d'être pour le monde, pour nos contemporains, le témoignage de cette foi inébranlable. Dieu est puissant, il peut tout, il nous sauve. Amen.